La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Ça arrive tout de suite. Est-ce que vous reconnaissez cet air joyeux qui a sûrement bercé vos oreilles franco-anglaises comme les miennes? C'est le générique du duo de pâte à modeler le plus connu, créé par Nick Park, Voilà c'est Gromit, qui revient sur petit écran pour leur deuxième long métrage, Voilà c'est Gromit, la palme de la vengeance. Car vous vous rappelez sûrement de leur premier long métrage, Voilà c'est Gromit, le mystère du lapin-garou, sorti en 2005, sans doute l'épisode le plus connu de la petite bande résidant au 62 West Wallaby Street dans la ville de Wigan vers Manchester. Mais saviez-vous que bien d'autres courts-métrages ont été réalisés pour suivre au plus près les aventures de cet inventeur et de son chien? 4 en tout, sans parler des spin-offs. Du premier, Une grande excursion en 89, au dernier, Sacré pétrin en 2008, en passant par Rasé de près de 95 et Un mauvais pantalon en 93, on y suit toujours les nouvelles inventions de Wallace qui, bien souvent, trop souvent, l'emmène lui et son chien dans des aventures sans dessous-dessus, ou peu importe l'ordre. Et pourquoi est-ce que je vous parle d'ailleurs de ces courts-métrages? Parce que ce nouveau film qui est sorti le 3 janvier sur Netflix et la suite en fait du court-métrage de 93 Un mauvais pantalon. On y suivait alors l'aventure de Feathers McGraw, un manchot criminel qui prévoyait le vol du diamant bleu au musée national. 32 ans plus tard, encore en détention dans un zoo, il est de retour pour jouer à nouveau de mauvais tours au duo intrépide et pour à nouveau essayer de voler ce fameux diamant. En utilisant la dernière invention de Wallace, il crée une petite armée de gnomes pour l'aider dans ses projets et monter la population locale contre l'adorateur de fromage. Entre jardinage, train qui déraille et manchot méchant, ce film nous replonge dans l'univers coloré et très british, dans un humour anglais réglé à la perfection. Aujourd'hui, au sommaire de la matinale, en première partie, Mati interviewera Lolita Rivet, professeure des écoles, sur un énième scandale réac autour de l'éducation à la sexualité. En deuxième partie d'émission, Alice accueillera Memouna, une chanteuse suisse venue nous parler de son nouvel album « C'est demain que je meurs » et surtout de sa prochaine date de concert parisienne. Pour les chroniques, Alice nous fera un flash info et Garance nous parlera de « L'Éden à l'aube » de Karine Catan.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
La matinale, ça commence tout de suite avec l'interview. Au téléphone avec nous, Lolita Rivet, professeure des écoles et créatrice du podcast C'est quoi l'amour, maîtresse. Est-ce que vous êtes avec nous? Alors, elle arrive tout de suite. Mati, t'es avec moi en studio ce soir. Est-ce que tu veux la présenter?
Oui, Lolita Rivet est une professeure des écoles. Elle est réalisatrice du podcast C'est quoi l'amour, maîtresse? Un podcast qui parle d'éducation à la sexualité et à la vie affective à travers les séances qu'elle enseigne avec ses élèves. Lolita Rivet, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Alors, Lolita Rivet, pouvez-vous vous présenter rapidement votre podcast à nos auditeuristes qui ne le connaîtraient pas encore?
Oui, alors c'est un hors-série du podcast Le cœur sur la table qui a été créé par Victoire Tuaillon. Et c'est un documentaire en 6 épisodes qui parle d'éducation sexuelle à travers les séances que je fais moi avec mes élèves de CE1 pendant une année et qui enquête aussi sur les raisons de la non-application de la loi. Parce qu'en fait, l'éducation sexuelle est dans la loi depuis plus de 20 ans et elle n'est toujours pas appliquée dans les écoles.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce projet ?
Ben moi, je suis devenue prof il y a 6 ans. Et en fait, il y a 6 ans, je pensais qu'en revenant à l'école, ce qui ne m'était pas arrivé depuis la primaire, je verrais une école qui avait changé, qui était beaucoup plus moderne, beaucoup moins violente. Et en fait, je me suis rendu compte que l'école n'avait pas tellement changé, voire qu'elle était presque plus violente que dans mon souvenir entre les enfants. Il y avait beaucoup d'insultes, d'agressions, d'agressivité entre eux, et puis il y avait aussi une grande méconnaissance des sujets de société, mais aussi de ce qui concerne leurs droits, tout simplement, et puis de leur corps. parce que les enfants en CM2, ils ont 10, 11 ans, donc ils entrent dans la préadolescence, voire l'adolescence. Et donc, j'ai commencé à faire des séances sans vraiment m'en rendre compte, parce que c'était une nécessité. Et puis, j'ai vu l'effet que ça avait sur eux. J'ai vu l'effet que ça avait d'ouvrir un espace de dialogue, de les laisser poser les questions qu'ils voulaient poser. Et c'était hyper intéressant, hyper bénéfique et très riche. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer le podcast. C'était pour qu'on entende ce qui se passe dans les séances et qu'on entende tout le bien que ça ferait d'appliquer cette loi.
Dans le premier épisode de votre podcast, vous avez dit une phrase très intéressante. L'école n'est pas un cocon hors du monde, c'est une micro-société. Qu'avez-vous voulu dire? Qu'avez-vous voulu dire avec cette phrase?
Ben, on a souvent cette idée que l'enfance et l'école en particulier, c'est un petit cocon, que les enfants ils sont protégés, qu'ils sont vraiment pas du tout touchés ni concernés par la violence du monde. Et donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles on n'aborde pas ces sujets-là, qu'on ne parle pas de violence, qu'on ne parle pas d'homophobie, qu'on ne parle pas de leurs droits. En fait, les enfants reproduisent totalement tout ce qui se passe dans la société, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient, tout ce qui se passe dans leur famille aussi. Et donc, c'est vraiment pas du tout un monde de bisounours protégé. C'est une société. C'est là qu'ils apprennent à vivre en communauté, à vivre en collectivité. Et donc, c'est là que déjà des rapports de domination, des rapports discriminatoires, des rapports violents s'installent entre eux. Et donc, il faut les guider. Il faut qu'on soit là en tant qu'adulte pour leur expliquer ce qui se joue, pour leur expliquer ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est pas acceptable, ce qui fait de la peine, pour développer aussi leur empathie. Et donc, c'est ça que j'ai voulu dire, que c'est dès l'école, et même dès l'école maternelle, qu'il faut aborder ces sujets-là avec les enfants et être présent pour eux, et puis ouvrir ces espaces de débat.
Un sondage de 2022 de l'IFOP montre un recul de connaissances sur la santé sexuelle, notamment sur le VIH-SIDA. En 2022, 69% des jeunes s'estiment bien informés sur la question du VIH-SIDA. En 2020, ils étaient 74%, soit une chute de 5 points. On remarque également une augmentation de 23% des idées reçues et fausses informations liées au VIH-SIDA. Comment expliquez-vous une telle situation? Quelles solutions sont possibles?
Ça dépasse un peu mes compétences, mais moi, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a un vrai recul sur ces débats-là, parce qu'on a l'impression que c'est pas à l'école, que c'est pas à l'école de faire ça, que c'est pas à l'école d'aborder ces sujets-là, et que les profs ont déjà beaucoup à faire. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de profs qui se sentent dépassés, peut-être, par ces sujets-là, et par le fait de les aborder avec les enfants, pas assez outillés. Et puis, il y a la crainte des réactions des parents, aussi. Donc je pense que tous ces sujets-là, quand je dis ces sujets-là, je parle d'homophobie, mais je parle aussi de la puberté, je parle de la contraception, des relations fille-garçon, égalité aussi, mais aussi du consentement, des violences, de ce que c'est une relation saine. Donc tous ces sujets-là, j'ai l'impression qu'on en parle encore moins dans les écoles qu'avant, par crainte des parents, parce que les profs ne sont pas formés, parce qu'il n'y a pas de temps imparti, et puis qu'on demande à l'école de faire beaucoup de choses. Et qu'il n'y a pas de temps dans l'emploi du temps dédié à ça. Et donc que les profs, je pense finalement, se cachent un peu derrière tout ça pour se dire « c'est pas mon boulot, c'est un terrain trop glissant, j'y vais pas, je laisse tomber ». Mais on voit les conséquences dramatiques que ça a sur les enfants et dans la société, sur les violences sexuelles et sexistes qui perdurent voire augmentent, sur les discriminations homophobes. Et puis sur les violences aussi que vivent les enfants, les violences sexuelles qui sont dramatiquement élevées. Donc oui, il faut réagir. Et cet enseignement-là, c'est un des outils pour réagir et faire que ça change.
Alors vous avez parlé justement de la peur face à la réaction des parents. Vous en parlez dans le second épisode notamment de votre podcast face à l'éducation à la sexualité, les peurs que vous aviez face aux potentielles réactions des parents. L'éducation à la sexualité est un sujet encore très sensible en France. Pourquoi pensez-vous que ce sujet est encore sensible? Quel rôle pensez-vous que l'école doit jouer dans ce domaine?
Vaste question. Moi je pense que l'école a tout à jouer dans le sens où l'école accueille 99% des enfants en France, pratiquement, l'école publique, mais l'école privée sous contrat aussi. Donc l'école a tout à jouer dans le sens où l'école, c'est le lieu qui est censé donner à tous les enfants les mêmes informations, les mêmes savoirs et les mêmes capacités de réfléchir par soi-même et de grandir. Donc on m'a souvent dit que c'était le rôle des parents de faire ça. Et je dis oui, je dis bien sûr que c'est aux parents de le faire et on n'empêche aucun parent de le faire, au contraire. Mais on ne peut pas dire aux enfants, bah, écoutez, vous aurez ces informations et cette éducation en fonction de vos familles. Débrouillez-vous bien. Parce que ce n'est pas juste. Il y a des familles qui abordent ces sujets-là dès l'enfance, le consentement, le fait d'être amoureux de qui on veut, le fait de jouer avec les jeux qu'on veut, le fait qu'il doit y avoir une égalité entre les filles et les garçons, le fait que les relations amoureuses doivent se faire avec du consentement, à l'écoute de l'autre. Il y a des familles dans lesquelles c'est vraiment des sujets qui existent depuis toujours, mais c'est rare. Moi, je le vois avec mes élèves, c'est extrêmement rare. La grande majorité des familles n'abordent pas ces sujets-là, pour plein de raisons qui leur appartiennent. Mais la réalité, c'est que ces enfants-là ne bénéficient pas des mêmes informations que les autres. Et donc, l'école se veut, pour moi, le lieu de l'égalité, en tout cas sur ces informations qu'on donne aux enfants et sur leur capacité de réfléchir à ces sujets-là. Pourquoi il y a tant de résistance ? Encore une fois, parce qu'il y a eu des histoires de professeurs attaqués par des parents, voire de professeurs tués, parce qu'ils avaient dit des choses que certains estimaient qu'ils ne devaient pas dire, parce qu'ils avaient des positions qu'ils n'auraient pas dû avoir. Donc, il y a quand même, il s'est passé quelque chose dans la société qui a fait craindre aux professeurs d'avoir des positions sur des sujets sensibles. Et l'éducation sexuelle est un sujet sensible, parce que c'est un sujet qui touche à l'intime, qui touche à l'éducation des enfants. Et ça, tout le monde pense avoir comment dire, la bonne formule, ou en tout cas, tout le monde pense savoir mieux que les autres comment faire, ou avoir au moins le droit de faire comme ils veulent. Mais là, il s'agit vraiment des droits des enfants, en fait. Il ne s'agit pas juste d'éducation, il s'agit de leurs droits. Et leur droit d'être informés sur leurs droits, justement, de ne pas subir de violence, de ne pas être frappé dans leur famille, de ne pas être humilié, de ne pas être puni, de ne pas être maltraité. Ces informations-là, c'est un droit de les recevoir. Et donc, compter uniquement sur les familles, ça peut pas suffire. Donc, il y a ces résistances familiales, il y a aussi des résistances religieuses, il y a des résistances réactionnaire, j'ai envie de dire conservatrice, de gens qui disent on a toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose de plus subtil et pernicieux, c'est que donner des informations aux enfants, c'est leur donner du pouvoir sur eux-mêmes et sur la compréhension de ce qu'ils vivent. Et donc, c'est sûr que moi, quand je dis à mes élèves, vos parents n'ont pas le droit de vous taper, c'est interdit par la loi, enfin, ils n'ont pas le droit de lever la main sur vous, je leur donne un pouvoir, celui de dire non. Celui de dire à leurs parents, vous n'avez pas le droit de me faire ça. Et donc forcément, le fait de donner du pouvoir aux enfants, tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée-là, parce que donner du pouvoir aux enfants, ça veut dire en perdre un peu en tant qu'adulte, parce que forcément, ils vont nous remettre en question, parce qu'ils vont dire que les adultes n'ont pas toujours raison, qu'ils ont leur mot à dire, et ça remet en question, en fait, les fondations des rapports entre adultes et enfants. Et je pense que c'est ça qu'on touche finalement avec cet enseignement-là.
Comme dirait Act Up Paris, information égale pouvoir. Quand on donne de l'information, on donne du pouvoir et des droits aux personnes. Que souhaitez-vous répondre aux réactionnaires justement qui fustigent l'éducation à la sexualité à l'école, qui parlent notamment d'une invasion d'un soi-disant lobby LGBT dans l'éducation? C'est notamment les propos haineux du lobby parental Parents Vigilants.
Ça commence à faire un petit moment que je réponds à leurs arguments, donc je suis fatiguée. Fatiguée parce que ce qui me choque le plus finalement, alors oui, ils parlent de théorie du genre, ils parlent de lobby LGBT, tout ça est évidemment absurde. Ce qui gêne profondément ces gens, c'est qu'on parle d'homosexualité aux enfants, c'est qu'on leur parle, c'est qu'on autorise les enfants et surtout qu'on les accompagne dans le fait d'être qui ils veulent. C'est ça qui gêne beaucoup ces gens. Et c'est qu'on remette en question les fondations de la société, à savoir l'hétérosexualité, la cellule familiale, etc. Donc c'est ça qui les dérange profondément. Il n'y a pas de lobby LGBT. Par contre, oui, moi je pense qu'il faut qu'on dise aux enfants, vous aimez qui vous voulez, et personne n'a le droit de vous violenter, de vous discriminer, de vous harceler ou de se moquer de vous pour ça. Pour eux, c'est déjà faire du militantisme. Alors moi, j'appelle ça protéger les enfants et les aider à grandir sereinement. Donc ouais, je suis très agacée et très en colère par tous ces arguments qui en fait font reculer les droits des enfants. Et moi, ce qui m'exaspère particulièrement, c'est quand ces gens-là utilisent le prétexte de la protection de l'enfant. Quand ils disent qu'on attaque les enfants, qu'on les perturbe dans leur développement, qu'on les traumatise, qu'on veut leur mettre des choses dans la tête alors qu'ils ne sont pas prêts. Je veux dire, si ces gens étaient vraiment, vraiment intéressés par les enfants, ils feraient des grandes campagnes pour lutter contre les violences sexuelles. Il ferait des grandes campagnes pour qu'on accepte les enfants LGBT dans les familles qui les rejettent. Voilà, si vraiment les enfants les intéressaient, ce que feraient ces gens. Et là, ce que font ces gens-là, qui ne sont pas si nombreux, mais qui font en fait beaucoup de bruit, parce qu'ils sont très organisés, ils ont accès aux médias, ils ont des financements, et ben, ce qu'ils font, c'est s'opposer à l'enseignement, à s'opposer à l'éducation à la sexualité, à la vie affective et relationnelle. Et donc, ils font reculer les droits des enfants. C'est tout le contraire.
Et nous rappelons aussi que des fondations comme la Fondation Le Refuge permettent d'accueillir les enfants qui sont mis à la porte à cause de leur homosexualité et que c'est un combat qu'il faut encore mener. Comment faites-vous pour répondre à des questions qui paraissent des fois banales pour des adultes face à des enfants ?
Je me mets à leur hauteur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est poser des questions aux enfants, en fait. On les écoute assez rarement. Et un enfant qui vous pose une question, moi, je commence souvent par leur retourner la question. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as entendu ? Pour savoir quels sont leurs... Là, je parle des enfants plus jeunes, évidemment. Hein, mais pour savoir quelles sont leurs connaissances là-dessus. Et pourquoi ils vous posent cette question ? C'est sûrement qu'il y a quelque chose qui est venu à l'école, qu'ils ont entendu. Et puis, une fois qu'ils vous répondent, là, vous partez de ce qu'ils savent. Et puis, vous répondez petit à petit de manière plutôt large. Et puis, si l'enfant continue de poser des questions, on précise les choses. Et puis, en fait, on répond aux questions. Parfois, on n'est pas outillé. Parfois, on ne sait pas quoi répondre. Donc, il peut aussi m'arriver de dire, c'est une super question et c'est hyper intéressant que tu te poses cette question, c'est de la curiosité. Et je ne sais pas quoi répondre pour l'instant, donc je vais aller chercher l'information et je viendrai te répondre. On peut aussi, en tant qu'adulte, admettre qu'on ne sait pas parfois comment répondre à certaines choses, qu'on n'a pas les mots, qu'on a peur d'être maladroit ou mal à l'aise. Et donc, on a aussi le droit de prendre ce recul. En tout cas, il faut accueillir les questions des enfants, parce que les enfants ont beaucoup de questions. Et on a souvent oublié notre propre enfance, mais nous-mêmes, on avait des questions qu'on n'a pas posées parce qu'on sentait bien qu'il y avait un malaise, que les adultes n'étaient pas à l'aise avec ces sujets-là. Donc, on peut tous être, je parle des profs, des parents, mais aussi des oncles, des tantes, des cousins, des amis de famille, on peut tous être des adultes de référence qui peuvent répondre aux questions des enfants. Parce qu'il faut savoir que si les enfants, on ne leur répond pas, ils vont aller chercher les réponses. Ils sont malins, ils sont curieux, c'est super. Mais quand on va chercher des réponses sur Internet, on ne tombe pas forcément sur des choses qu'on devrait voir ou des choses qu'on devrait savoir. Donc, il faut surtout pas dire aux enfants que ce n'est pas de leur âge, qu'ils sauront plus tard, qu'ils verront bien, etc. Parce que si un enfant se pose cette question à ce moment-là, c'est qu'il a besoin d'une réponse.
Lolita Rivet, restez avec nous. On va juste faire une courte pause musicale avec Amateur de Hera Furman. I wanna be an amateur. That's what I would like to someday be. I wanna be an amateur. Back like I used to be. I wanna go down to the essence, down to the essence, down to my clumsy childhood essence. I wanna be essentially unfiltered, free. I don't like hierarchy. I don't worship human power. The idea of an elite is not for me. I'm an American. I'd like to think that means real democracy. I wanna be an amateur. When you're an amateur, you don't have the whole thing preconceived. You're flying blind. You didn't get a pricey art degree, or if you did, that's fine. If you can forget your vocabulary, got wings to fly. No sense keeping them folded neatly. Take to the sky. Let me hear you strain your voice so sweetly. You got instinct, you got almond eyes. Get your feathers dirty, baby, if you wanna be an amateur. Stick with me. I don't
know anything. I don't know anything. At least that's how I'd like to be. I wanna be an amateur.
C'était Amateur de Ezra Furman sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Juste avant la pause musicale, Mathie recevait au phoneur Lolita Rivet pour parler d'éducation à la sexualité dans les lieux d'enseignement en France. Est-ce que vous êtes toujours avec nous au téléphone ?
Oui, je suis là.
Lolita Rivet, est-ce que vous avez... Lors de ce podcast et aussi du travail que vous avez fait en classe, vu des résistances de la part des institutions, notamment de l'éducation nationale, peut-être de collègues ou justement de l'école où vous enseignez.
Oui, il y a beaucoup de résistances, mais elles sont beaucoup moins frontales que ce qu'on imagine. C'est plutôt une sorte de déni, je dirais, une sorte de déni collectif de « Ah, tu fais ça, ok, on passe à autre chose, en fait. » Donc, il y a très peu... d'intérêt. Alors, encore une fois, je pense que les raisons appartiennent à chacun. Il y en a plusieurs, mais y a beaucoup de résistances douces, on va dire, qui font que les choses n'avancent pas. Et que dès qu'on essaye de lancer une dynamique collective, etc., il y a beaucoup de blocages. Ah bah non, il n'y a plus d'heures de formation disponibles. Ah bah oui, on va faire ça, mais plutôt l'an prochain, parce que là, on a déjà un projet. Donc, c'est toujours oui, mais pour demain. Et donc, sur le fond, on a l'impression que ce sujet-là est hyper consensuel et que tout le monde est hyper d'accord pour qu'on en fasse. Et au final, il y a très peu de moyens, il y a très peu d'envie collective, il y a très peu d'énergie pour ça. Mais je pense aussi que c'est une résistance qui vient d'une peur. Qui vient d'une peur de tout ce qui va sortir de cet enseignement, parce qu'il sort des choses. Il sort des révélations d'enfants, de violences physiques, de violences sexuelles. Et donc, c'est très dur de se confronter à ça. On ne sait pas comment faire. Les profs ne sont pas formés. Et puis, on ne sait pas comment faire humainement. On est très peu armés, très peu outillés pour faire face à ces situations-là, qu'on a longtemps cru être des exceptions, des choses horribles qui arrivaient à certains enfants dans des familles horribles. Et quand on se rend compte de l'ampleur des choses, je peux comprendre que psychologiquement, il y a une sorte de déni qui s'installe parce que c'est très dur à voir.
Alors vous passez... Je sais pas si j'ai répondu à la question. C'était parfait. Vous avez passé aussi beaucoup de temps à résoudre les conflits qui éclatent entre vos élèves. Comment l'éducation à la vie affective vous permet notamment de résoudre ces conflits, sachant que les adultes montrent souvent le mauvais exemple? Avec quel outil et de quelle manière réglez-vous ces conflits?
Oui, c'est vrai, les adultes montrent beaucoup le mauvais exemple, et vraiment ça c'est le fond du truc, parce que cet enseignement il marche que si nous adultes on se remet en question et on change de position, et puis on accepte de voir ce qu'on fait pas bien en fait. Donc par exemple quand on crie sur un enfant et qu'on lui dit qu'il faut pas crier et pas taper, c'est compliqué, l'enfant il entend quelque chose, mais lui ce qu'il retient c'est ce qu'il voit. Donc pour apprendre aux enfants à réguler leurs émotions et à ne pas être violents, etc., bah c'est beaucoup de patience, beaucoup de répétition, et puis c'est vraiment utiliser l'empathie. Donc moi, je commence à arrêter de demander aux enfants de s'excuser dès qu'ils font quelque chose, parce que l'excuse qui est forcée, elle ne sert à rien. Par contre, je leur demande d'essayer de comprendre ce que l'autre ressent, ce que l'autre vit. Bah là, regarde ton camarade que tu as tapé, bousculé, etc., ou que tu as insulté, regarde-le. Qu'est-ce qu'il ressent à ton avis? Comment il se sent? Et en fait, en développant cette empathie, je pense que c'est un des meilleurs moyens pour réguler les conflits et puis pour apprendre aux enfants à le faire seuls, en fait. Parce qu'il n'y aura pas toujours des adultes derrière pour dire « Bon, alors, racontez-moi ce qui s'est passé, excuse-toi, etc. » Mais le but, c'est que les enfants soient autonomes. Et pour être autonome, il faut qu'on leur donne des outils. Donc, l'empathie est un outil très puissant pour régler les conflits. Et puis aussi des choses comme comment réguler ma propre colère, comment comprendre ma colère et comment comprendre ce qui vient de moi, quoi. Et puis ça, les enfants, c'est très dur pour eux, parce qu'en fait, que ce soit dans les familles ou à l'école, on leur donne très peu d'outils pour exprimer leur colère et leur frustration. On leur dit souvent de ne pas faire. faut pas crier, faut pas taper, faut pas faire de crise, faut pas. Mais on leur dit pas ce qu'ils peuvent faire. Donc leur donner des outils pour faire. Bah, qu'est-ce que tu peux faire quand tu es en colère? Bah, tu peux sortir crier dehors. Tu peux taper sur un coussin. Tu peux pleurer. Tu peux demander un câlin à quelqu'un. Enfin, voilà, leur donner des choses qui peuvent les aider à contrôler leurs gestes. Et ça, c'est encore assez peu développé. Hein. C'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales. C'est assez peu développé dans l'éducation nationale, malheureusement. Alors que c'est quelque chose d'essentiel. On voit, nous, en tant qu'adultes, on a beaucoup de mal à gérer notre violence, notre colère, notre frustration. Et on demande à des enfants en plein développement de le faire mieux que nous. Donc ça, c'est un point très important, ouais, de cet enseignement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous partager un moment marquant où un élève vous a surpris par une question ou une réflexion ?
Oh, il y en a eu pas mal, mais je dirais que c'est une des premières années où j'ai enseigné. La première année où j'ai enseigné, j'avais des CM2, donc ils ont 10 ans, et je leur avais parlé de sexisme, parce que je me disais que c'était un mot quand même qu'ils pouvaient comprendre, je leur avais expliqué ce que ça voulait dire, etc. Et souvent, je pars de situations qu'il y a dans l'école, hein, donc des garçons qui disent « les filles, c'est nul, les filles, elles ne peuvent pas jouer au foot, les filles, elles ne savent pas, etc. » Donc, je leur explique ce que c'est du sexisme et je leur explique sans jamais les culpabiliser pour ce qu'ils se disent, hein, mais en leur expliquant ce que veulent dire les mots et ce que ça sous-tend. Et donc, ce petit garçon était revenu peu de temps après. Il m'avait dit « maîtresse, quand on est allé à la piscine, bah, le maître nageur, il a fait une réflexion sexiste. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce qu'il a dit ?» Et ben, j'étais en train de nager avec une frite et il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais de l'aquagym ? C'est pour les filles, l'aquagym. »
Ah oui, quand même.
Et donc, voilà. Donc oui, les adultes qui disent des choses sexistes, il y en a plein. Mais j'étais assez surprise de voir que cet enfant, il avait utilisé l'outil que je lui avais donné et qu'il avait utilisé cet outil pour analyser une situation qu'il avait sûrement mal vécue, hein, personnellement, parce que c'était une critique d'un adulte qui visiblement jugeait négativement son comportement. Et il l'avait retourné pour dire, bah, en fait, c'est pas moi le problème, ni mon comportement, mais c'est cet adulte qui a fait cette réflexion-là discriminante. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, c'est parfois juste ça. Ou c'est aussi des enfants qui vont me dire qu'ils ont réussi à dire à leurs parents qu'ils n'avaient pas le droit de les taper et que les parents ont bien réagi en disant « Ah bah oui, t'as raison, bah je vais arrêter, on va trouver autre chose. » Donc c'est vraiment cette impression-là de donner du pouvoir aux enfants qui est extrêmement satisfaisante et qui, je pense, est le fond de cet enseignement.
Est-ce que justement vous avez remarqué de vos propres yeux des évolutions, même dans la cour de récré entre les élèves sur leur comportement qu'ils peuvent avoir entre eux?
Oui, alors pas forcément dans la diminution des conflits, parce que bah, ils vivent un peu tous les uns sur les autres dans les écoles. Ils sont très nombreux à partager le temps, l'espace, la parole. Donc il n'y a pas moins de conflits. Par contre, quand je vois des enfants très jeunes, hein, de maternelle, qui arrivent à régler une situation de conflit tout seuls, sans avoir besoin de moi, parce qu'ils vont en fait... réutiliser les outils qu'on leur a donnés, bah ça c'est super. C'est super parce qu'en fait les conflits ils sont inévitables, donc ils en rencontreront toute leur vie. Par contre, savoir les réguler ensemble et puis discuter et trouver des solutions, bah, ça c'est aussi une grande victoire et c'est ce qu'on souhaite à tous les enfants, c'est de ne pas avoir besoin des adultes mais de savoir se débrouiller ensemble.
Que demandez-vous à l'éducation nationale, notamment en termes de formation ? On parlait par exemple des compétences psychosociales, peut-être plus de temps en classe pour pouvoir en parler ?
Bah, là, je demande tout, en fait, parce qu'il n'y a rien. cette année, il devait y avoir un programme qui n'est toujours pas sorti, avec tous les remaniements. Donc déjà, ce programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle donnerait quelque chose sur quoi les profs peuvent se baser pour enseigner ça. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le minimum. Et déjà, ce minimum est très compliqué à avoir parce que le sujet a été politisé et qu'il y a plein de partis de droite et d'extrême droite qui s'y opposent. Donc déjà, il faudrait un programme clair. Et ensuite, il faudrait un vrai soutien de l'éducation nationale. Et pour ça, évidemment, il faut que cet enseignement il soit intégré à la formation initiale des profs. C'est-à-dire quand les profs sont formés pour devenir des futurs profs, il faut qu'on leur apprenne à parler de ces sujets, on leur apprenne à faire des séances autour de ces thèmes-là, à réagir quand il y a des révélations de violence, par exemple. Et puis, pour ça, il faut des moyens financiers. Donc, si les profs doivent être formés, il faut qu'il y ait des formateurs qui soient capables de former les profs. Et puis, aussi, il faut du temps. Il faut du temps parce qu'on a des emplois du temps hyper chargés. De français et de maths globalement en élémentaire et donc il faut un temps alloué pour ça Parce que nous, on doit des comptes à l'éducation nationale et donc on doit 7 heures de français par semaine, 6 heures de maths, voilà, grosso modo. Et donc, où est-ce qu'on cale ces enseignements-là ? Donc là, on nous dit de faire du transversal, c'est-à-dire bah, quand vous faites une séance d'histoire ou de français, vous calez un truc sur le consentement. On nous demande de faire rentrer des carrés dans des ronds et je veux bien, mais les profs ont beaucoup de choses à faire, c'est très compliqué. Donc ouais, il faudrait un temps alloué et puis il faudrait des grandes campagnes nationales pour expliquer aux gens ce que c'est cet enseignement et puis qu'on arrête de raconter n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens très mal informés qui en fait entendent un irresponsable politique parler de ça et puis ils disent bah, regardez ce qu'on apprend à nos enfants, on apprend à nos enfants à devenir des petits garçons, des petites filles, à se masturber, on leur parle de cunnilingus en CM1. N'importe quoi. Et pourtant, c'est encore extrêmement répandu, ces rumeurs. Donc, s'il y avait une grande campagne nationale sur pourquoi on fait cet enseignement, pourquoi c'est indispensable, utile, etc., déjà, on fera un grand pas.
Lolita Rivé, merci. Votre podcast, je rappelle, c'est Quoi l'amour maîtresse ? Est-ce que vous avez d'autres projets en préparation ?
Oui, peut-être. Peut-être un prochain podcast autour des enfants encore.
Eh bien, merci beaucoup, merci. En tout cas, Lolita Rivé. Votre podcast à écouter sur Binge Audio.
Et on écoutera votre
merci
prochain podcast. Merci d'avoir été à notre micro ce soir et d'avoir répondu aux questions de Matty. On boucle cette première partie d'émission avec le détail de The Odds. C'était le détail de The Odds sur Radio Campus Paris. Et Alice, top horaire, flash info
de la matinale de 19h. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, du coup, pour le Flash Info, on va voir quelques petites infos. Vous allez voir du jour. On commence par une info qui va peut-être vous plaire puisque ça concerne les réseaux sociaux. Donc après un soutien publiquement affirmé de bon nombre de multimilliardaires et de grands patrons américains envers Donald Trump, une dizaine de jours de son investiture, c'est maintenant au tour de Mark Zuckerberg de se positionner en faveur du changement dans la politique de modération des contenus sur les réseaux sociaux. Le patron de Meta, donc comprenant Instagram, Facebook, etc., prévoit en effet de supprimer le fact-checking, cette vérification des contenus, notamment politiques, pour les remplacer par des annotations communautaires similaires à X, qui permettent donc à tout un chacun de donner son avis sans plus de vérification officielle sur un sujet. Deuxième info, les hôpitaux sont sous tension face à une importante épidémie de grippe. Un épisode alarmant selon les médecins qui redoutent un épisode similaire à 2017-2018 qui avait enregistré 13 000 morts pendant l'hiver 2017-2018. Donc. Gilles Pialouf, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris, se déclare, je cite, « très préoccupé par cette pente ascensionnelle ». Les médecins déplorent que la couverture vaccinatoire ne soit pas aussi élevée qu'ils l'auraient attendu, avec seulement 54% des personnes de plus de 65 ans qui soient vaccinées, qui sont considérées aussi comme étant particulièrement fragiles face au virus de la grippe. Début des soldes, aujourd'hui marque le premier jour des soldes d'hiver dans les magasins. Malgré des incertitudes liées au contexte politique et à la concurrence du commerce en ligne, les commerçants se montrent plutôt optimistes, notamment en raison du ralentissement de l'inflation. Si l'envie vous y prend, vous avez jusqu'au 4 février pour en profiter, en gardant bien évidemment en tête qu'avoir des prix baissés c'est cool, mais a-t-on réellement besoin de tout cela ? On est mercredi aujourd'hui, et qui dit mercredi dit sortie ciné. La chambre d'à côté, par exemple, qui est le nouveau film de Pedro Almodovar avec Tilda Swinton et Julianne Moore, le premier film en anglais du réalisateur espagnol. Deuxième film, Personne n'y comprend rien, un documentaire de Yannick Kergoat sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Le film produit par Mediapart promet aux spectateurs d'expliquer en détail le scandale du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy.
Merci Alice pour le flash info et maintenant on passe au zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
En studio avec nous ce soir, Meymouna, qui nous parlera de ton nouvel album et surtout de ta prochaine date de concert parisienne. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc ce soir, en effet, on accueille Cyrielle, qu'on connaît sous le nom de Meymouna, nom d'artiste, tu t'es imposé du coup comme un projet musical de la scène suisse et française. Et ton dernier album est sorti en octobre dernier, c'est Demain que je meurs, qui est sorti du coup en octobre, donc qui est ton premier album studio, si je dis album...
c'est tout juste mon premier album, mais avant ça j'avais sorti en fait 5 EP, enfin ce qu'on appelle des EP, donc des mini-albums, donc oui c'est...
Experimental Project.
Ouais. Ouais.
Ok, et du coup ce premier album, C'est Demain que je meurs, tu l'as sorti dans quel contexte par rapport à tes EP précédents, etc. Est-ce que c'est dans la continuité de tes projets précédents ou est-ce que c'est un album différent des titres que tu as pu sortir, de ton environnement musical?
Bah, c'est assez différent parce que dans le sens où ce projet existe depuis 7 ans et puis chaque EP est sorti au fil de mon parcours, j'en ai sorti un chaque année ou chaque 2 ans et donc ça marquait chaque fois une étape de mon parcours, un témoin de qui j'étais, de ma personnalité, donc forcément que c'est toujours différent. Et un EP c'est plus court, donc c'est plus dense, c'est peut-être plus expéditif aussi dans sa communication, dans sa réalisation. Et l'album c'est tout un concept qui met du temps à être réalisé. Et puis donc oui, j'ai mis 2 ans à faire cet album qui s'appelle C'est demain que je meurs, qui contient 10 chansons, qui a un fil rouge, qui est très orchestral, très collaboratif. J'ai travaillé avec plein de gens, donc c'était un sacré challenge, vachement plus dense et important que ce que j'avais fait jusqu'à maintenant.
Et toi, tu es musicienne et chanteuse, tu joues de quels instruments sur cet album?
Je suis surtout guitariste à la base, je fais de la guitare classique depuis que je suis toute petite. J'ai un parcours classique et j'ai commencé à chanter un peu plus tard. Donc j'écris mes paroles, je compose, je produis aussi. Et puis par mon rôle de productrice, je joue aussi d'autres instruments, des claviers, des petits éléments, plein de synthés, plein de petites choses. Mais j'ai bien su m'entourer aussi de gens qui savent faire plein d'autres instruments que je ne maîtrise pas du tout.
Très polyvalente du coup oui. Sur cet album. Tu disais que tu avais l'occasion du coup de travailler avec d'autres personnes. Est-ce que les personnes qui ont pu t'accompagner musicalement sur cet album-là, c'est des personnes qui sont aussi sur scène avec toi ? Est-ce que tu es seule sur scène ?
Non, alors je ne suis jamais seule parce que je déteste ça, ça me terrorise. je trouve que c'est très dur d'être seule sur scène, de porter tout ça seule. Je joue minimum en duo et j'ai plein de formules différentes. On peut être 3, 4, même jusqu'à 12 ou 13 musiciennes et musiciens sur scène. Et puis sur cet album, j'ai travaillé principalement avec une compositrice de film qui s'appelle Ella Vanderwood, qui a co-réalisé avec moi cet album. Malheureusement, elle a déménagé. Donc moi, je suis suisse, elle vit maintenant à Amsterdam, donc elle ne joue plus avec moi sur scène. Mais il y a plein d'autres personnes très talentueuses qui jouent avec moi sur scène. Ouais.
Et justement, dans ton processus d'accouchement de ce bébé qui est cet album, comment est-ce que ça arrive ? Comment est-ce que tes musiques, est-ce que tu penses d'abord les paroles ? Est-ce que tu as d'abord des mélodies qui te viennent et après qui t'inspirent des paroles ? Est-ce que c'est des images, des souvenirs qui te...
Ouais, c'est un peu tout ça. Je pense que je commence quand même vraiment par la guitare. C'est mon outil principal, celui que je maîtrise, j'utilise depuis le plus longtemps et que je maîtrise peut-être le mieux. Et donc, ça commence toujours avec la guitare, avec des suites d'accords qui m'inspirent. Puis, il y a des mélodies qui viennent et les paroles viennent souvent en dernier recours. Après, en dernière étape. Et puis, avec cet album, j'ai essayé un peu de renverser mes habitudes parce qu'avant ça, j'avais donc sorti 5 EP où j'avais un peu un modus operandi qui était... le même à chaque fois, et puis j'ai voulu me créer quelques contraintes, par exemple commencer à construire un morceau d'après une ligne de batterie, ou bien de commencer d'abord avec les paroles pour aussi me surprendre dans mon processus créatif. Donc j'essaie de me renouveler à propos de cet aspect-là. Ouais.
Et justement, tu parlais de paroles, tu as une musique dans cet album qui est en anglais, c'est Lullaby for a Satellite. Pourquoi pourquoi avoir une musique en anglais ? Qu'est-ce que ça dit de plus ou de moins ? Ou qu'est-ce que, voilà.
C'est assez marrant en fait, c'est une petite anecdote. J'avais envie d'écrire une chanson à cette période qui... En fait, Lullaby for a Satellite, ça veut dire donc berceuse pour un satellite. J'ai un chat qui s'appelle Spoutnik. Et en fait, cette chanson, elle parle de mon chat. Comme j'assumais pas totalement le fait d'écrire une chanson pour un chat, elle m'est d'abord venue en anglais. Aussi parce que c'est une chanson très simple, très légère, qui est donc une berceuse de réconfort pour qui dit en fait tout va bien se passer, reste près de moi, je vais te consoler, je vais te soigner. Puis c'est à une période où mon chat sortait tout le temps se bagarrer, se blessait tout le temps, et donc j'ai écrit cette petite lullaby pour lui. Mais en fait, c'est très bien qu'on sache pas que ça parle de ça, parce que ça fonctionne pour tous les êtres vivants, les êtres humains et tous les animaux, et donc voilà.
Et petite, si je dis pas de bêtises, si je confonds pas les clips, dans le clip on voit un chat.
Oui,
c'est dans celui-là.
C'est,
oui, voilà.
Spoutnik.
Oui, donc il y a quand même un lien entre l'anecdote.
Oui, parce qu'il lui est arrivé plein de mésaventures. Il a tout le temps des collerettes, des bandes.
C'est un bagarreur.
Ouais, ouais. Du coup, j'ai fait une compile de toutes les mésaventures filmées.
Ok, et justement, dans tes clips, est-ce que c'est une partie que tu vois, que tu imagines, que tu commences à concevoir au moment où tu conçois ta musique ? Ou est-ce que ça vient dans un second temps ? D'abord, tu as la musique et ensuite la partie plutôt visuelle ?
Alors, de deux manières différentes. En fait, moi, je suis très visuelle parce que je suis aussi illustratrice et très touchée par le cinéma, par l'image, par la photo. Et puis donc, quand j'écris, souvent, c'est très expressionniste comme ça, c'est très contemplatif. J'utilise beaucoup d'images dans la manière que j'ai d'écrire des paroles. Et puis, pour ce qui est des clips et de la représentation visuel de mes chansons, ça vient dans un second temps, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, parce que j'adore dessiner, j'adore réaliser des clips. Encore une fois, je sais aussi m'entourer de gens qui font ça très bien, mais en général, tout ce qui est des clips, des covers d'albums, des affiches, ça vient plutôt par après. Ouais.
Ok, j'ai vu justement qu'il y avait des clips avec des illustrations. Oui. J'imagine du coup que c'est toi qui les as fait.
Ouais, j'ai fait des dessins animés en stop motion avec une technique à l'ancienne où je dessine 12-15 images par seconde. J'ai fait 2500 dessins pour un clip qui s'appelle Tomber de haut, qui est sur l'album. Et ouais, ça me prend beaucoup de temps, mais j'adore ça.
Beaucoup de temps mis dans ce clip, du coup, dans ce visuel.
Oui.
Tout à l'heure, après cette interview, on écoutera Eve V, Battre des records, qui parle de l'actrice Lolo Ferrari, de son vrai nom Eve Valois, d'où le titre de la musique. Eve Valois, qui était une chanteuse, actrice et actrice de films pornographiques français. Elle est morte assez jeune, hein, j'ai vu à 37 ans en 2000. Pourquoi avoir fait une musique sur elle en particulier ?
Bon, moi, quand j'étais petite, Lolo Ferrari, on la connaissait parce que voilà, c'était une icône très sexy, une Lolita qui avait fait des tas de chirurgies esthétiques. Elle est rentrée dans le Guinness Book parce qu'elle avait la plus grosse poitrine du monde.
Okay.
Puis c'était un peu une... On se moquait beaucoup d'elle, en fait, parce qu'il y avait quelque chose d'assez pathétique. Et puis, suite à une discussion avec des amis, en fait, j'étais persuadée qu'elle était décédée suite à une énième opération de chirurgie esthétique. En fait, je me suis penchée un peu par hasard sur sa biographie et puis j'ai réalisé qu'elle avait une vie absolument terrible. Elle avait été manipulée par tout le monde, elle était tombée sur des gens qui l'avaient utilisée, qui en avaient fait ce qu'ils voulaient. Et puis, quand elle est décédée, elle a été enterrée sous une tombe anonyme. Et j'ai trouvé ça assez terrible parce que c'est une femme qui, toute sa vie, a essayé de trouver de l'amour, d'être reconnue, d'être aimée. Et puis je pensais que ça rentrait aussi en résonance avec plein d'histoires de femmes actuelles et que c'était encore très contemporain comme histoire. Et puis j'ai voulu lui rendre hommage à ma manière en écrivant une chanson qui soit très tendre et très douce et pas du tout dans ce voyeurisme ou cette moquerie qu'il a suivi pendant toute sa vie.
Et dans la progression de l'album, est-ce que... à quelle place ça intervient ? Est-ce qu'il y a une suite logique qui est... Est-ce que c'est un déroulé d'histoire
Oui, c'est vrai que c'est toujours une question assez prenante, la tracklist. Donc, dans quel ordre on met les chansons ? On se prend beaucoup la tête alors qu'en fait, les gens n'écoutent jamais l'album dans l'ordre et ça se retrouve dans des playlists.
Lecture aléatoire.
Ouais. Écoutez l'album dans l'ordre parce qu'on y pense vraiment, on y réfléchit. Mais n'empêche que je ne me rappelle plus exactement quelle place elle a, mais... Alors, l'album ne raconte pas forcément une histoire précise, mais elle intervient parce qu'en fait, c'est une chanson qui est très lumineuse, très douce et réconfortante. Et je pense qu'elle vient après quelque chose qui est plus lourd et plus sombre et puis qui apporte beaucoup de lumière, en fait, beaucoup de tendresse. Ouais.
Et est-ce que c'est une musique que tu joues sur scène ?
Ouais.
Tu la chantes ?
C'est une chanson que je chante. C'est une de mes préférées, en fait, parce que c'est un album qui est très introspectif, qui est très centré sur moi, qui est très, un peu un genre d'ego trip.
Et ton chat.
Et mon chat, c'est vrai. Et qui parle beaucoup de mon histoire, de mes blessures. Et puis cette chanson, j'ai pris vraiment... Je croyais qu'elle ne parlait pas du tout de moi. J'étais très heureuse de parler d'autre chose que moi. Puis forcément que ça rentre beaucoup en résonance avec mes propres histoires. Mais j'adore cette chanson. J'aime beaucoup la jouer sur scène. Ouais.
Et comment le public y réagit ? Est-ce qu'il est au courant de l'anecdote, de l'histoire, de la personne
qui
l'a inspirée ?
C'est hyper intéressant. Moi, je parle beaucoup entre les chansons parce que ça me paraît important de parler qu'est-ce qu'elle raconte. Et souvent, je commence en disant « Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent Lolo Ferrari ?» Et souvent, on entend des rires, des gens qui sont gênés, qui pouffent comme ça « Lolo Ferrari !» Et après, je raconte l'histoire et il y a un genre de lourdeur, de silence qui tombe. Et puis je joue cette chanson et puis elle est très bien accueillie en fait. Et souvent, c'est après les concerts, j'en me disais, cette chanson sur Lolo Ferrari m'a beaucoup touchée.
Et ils apprennent à la connaître à travers...
Exactement, d'une autre manière en fait. Ouais. Et d'en faire un peu une amie et de gagner du respect et de la tendresse. Quoi.
Et justement, concernant tes prochaines dates, où est-ce qu'on peut te retrouver sur scène ?
Oui, j'ai fait ma première tournée française en janvier. Et donc, ça commence avec une date à Paris le 22 janvier au 3 Baudet. Il reste quelques places. Et puis après, je continue pendant 10 jours. Je n'ai plus toutes les dates en tête, mais c'est plutôt dans le centre et dans le nord, à Tours, jusqu'à Dunkerque, en passant par... Non, je vais te prononcer tout faux, je ne me rappelle plus très bien les noms.
Plein de villes, en tout cas.
Mayenne, non, je ne sais plus. Cholet, Mayenne, et Dunkerque.
Sinon,
Roubaix.
Roubaix aussi.
Ouais, je me rappelle plutôt.
D'accord, donc tu vas vraiment aller de partout.
Oui.
Dans des contrées plus ou moins reculées.
Oui.
Ok, et bah merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu, c'était hyper chouette.
Merci pour votre accueil.
Puis t'inquiète, nos auditeurs et nos auditrices ne sauront rien quant à l'histoire du chat. Ils vont juste entendre la chanson sans le savoir.
C'est le principal.
Et comme Alice l'a dit juste avant, on va écouter ensemble Eve V sur le 93.9.
Combien de fois me disais, je suis pas aimée, personne n'y m'aime. Je lui dis, arrête ton chat, bon Dieu. Moi, je t'aime. C'est déjà pas mal. Eh ben non, elle n'était pas aimée. Elle se sentait pas aimée. Elle a manqué d'espoir en elle-même. Elle voulait se faire disparaître.
Tous les garçons que tu ressembles à Brigitte ou Marilyn. Tu t'entraînes à poser pour les photos. Recto verso, c'est comme ça qu'on aime les filles, silencieuses et jolies. Toi qui
C'était FV de Meymouna sur le 93.9.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Garance, tu nous parles de quoi ce soir ?
Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du livre L'Éden à l'aube de l'écrivain palestinien Karim Khatan, qui est paru en 2024 aux éditions Elizade. Donc c'est une maison d'édition tunisienne qui a reçu le prix de la cagnotte 2024. Donc le prix de la cagnotte, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeune prix littéraire créé par 5 écrivaines et scénaristes réunis au bar La Cagnotte dans le 20e en décembre dernier pour sa deuxième édition et qui vise à mettre en lumière des écritures singulières et des livres plus marginaux qui échappent aux logiques éditoriales des prix littéraires traditionnels.
Et donc l'Éden à l'aube, ça parle de quoi ?
Donc c'est d'abord une histoire d'amour entre deux hommes à Jérusalem. Une histoire d'amour faite d'empêchement, d'attente et de désir tue pendant trop longtemps. Donc il y a le temps long de la rencontre entre Isaac et Gabriel qui s'étend, la découverte de l'autre de son histoire à la fois réelle et fictionnée, le désir amoureux et l'intimité qui se tisse entre les deux personnages grâce au rituel instauré par Isaac qui tente de retenir Gabriel, fasciné par sa beauté, en imaginant des histoires qu'il lui raconte, des contes qu'il improvise pour qu'ils restent ensemble encore un peu plus longtemps, pour qu'ils se revoient chaque fois à la réception de l'hôtel où Isaac travaille. Donc il y a la honte de soi, le déni, ce qu'on refuse de s'avouer, et puis l'ouverture des possibles, l'amour vécu après l'attente, une histoire de métamorphose. Car il pensait auparavant que ce qu'il mérite, c'est l'autre, l'amour crochu et sombre, qui a des allures de cauchemar, nous explique le narrateur. Une histoire d'échappée donc qui prend la forme d'un road trip improvisé sur un coup de tête. Partir loin, partir n'importe où mais ensemble, se retrouver allongé à deux et être pleinement heureux. Si on observe le ciel d'ici, encadré par ses trois pins et ses deux palmiers, dit Isaac à Gabriel, on a l'impression de ne pas être dans un pays colonisé. Il faut faire travailler dur l'imagination, mais voilà, c'est possible. Si on regarde par là, on dirait qu'on est absolument libre. Mais le désir d'Isaac de vouloir contrôler le monde par les mots est bien évidemment voué à l'échec. Partout les checkpoints, les colons israéliens et l'impossibilité pour le narrateur de raconter l'histoire des deux personnages sans parler des conditions matérielles de leur rencontre et de leur existence, de la violence de l'occupation qui conditionne leur histoire. La langue de Kerim Katan, un curieux mélange d'ironie et de lyrisme, rend d'autant plus glaçante la description crue de l'expérience de la violence des corps colonisés, considérés aux yeux des colons comme des corps éliminables, toujours dangereux, qui vivent eux sous la menace du danger permanent et de la mort violente, parce que palestiniens. Donc à travers la quête de lumière et de liberté des deux amoureux, le roman pose finalement la question de ce que peut l'art, la littérature, face à l'horreur de la colonisation. Isaac et ses histoires qui essayent de repousser loin le réel, Gabriel qui dessine des cartes comme autant de territoires queer et intimes, non encore colonisés. Il s'agit en tout cas de résister, comme l'écrit Kerim Katan dans sa tribune publiée dans Le Monde en octobre dernier, non seulement aux automatismes journalistiques que l'on aperçoit un peu partout à propos de Gaza, l'utilisation de la voix passive, des verbes approximatifs et d'euphémismes, mais surtout lutter, je le cite encore, contre ces ambiguïtés qui rendent impersonnelles les atrocités, qui amoindrissent les réalités de l'apartheid, de l'occupation et de la colonisation. Donc l'Eden Alaoub, vous l'aurez compris, est à lire de toute urgence.
Merci Garance et merci à toutes et à tous. C'est déjà la fin de la matinale. On pleure, vous pleurez chez vous, je le sais. On se quitte quand même dans la joie et la bonne humeur, pardon, car pour rappel, Hitler est mort. Merci à nos invités, Lolita Rivet et Meymouna. Merci aux bénévoles avec nous ce soir. Mathie, Alice, Garance, Nils en réal, Maywen et Alice à la coordination.